Radio Kapi.
Au sommaire de ce journal, prestation de serment de Félix Tshisekedi ce samedi 20 janvier ici à Kinshasa en sa qualité de président de la République pour son deuxième mandat. D'après l'historien Isidore Ndaiwel, la prestation de serment se fera selon l'esprit de la Constitution. Et justement, en prévision de la venue de son président, le ministre de la Défense de la République du Malawi à la tête d'une forte délégation a été reçu hier vendredi à Kinshasa par le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba. Au menu de ce tête-à-tête, le renforcement de la coopération entre les deux pays. L'invité de ce journal est le porte-parole militaire de la MONUSCO basé à Goma, au Nord Kivu. Le lieutenant-colonel Kedani Mensah fait le point sur les interventions de la MONUSCO les deux semaines passées dans le cadre de son mandat de protection des civils dans les provinces de l'Ituri et du Sud Kivu. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. L'actualité reste dominée par la prestation de serment de Félix Tshisekedi ce samedi 20 janvier ici à Kinshasa comme président de la République pour son deuxième mandat. Selon Patrick Muyaya, ministre des Médias, cette cérémonie sera marquée par trois temps forts. Le porte-parole du gouvernement l'a dit hier vendredi à Kinshasa lors de la conférence de presse conjointe avec le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, Peter Kazadi, ainsi que de l'historien Ndaiwel Isidore. Des détails avec Paul Matendo.
Parmi ces temps forts, l'entrée du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, puis l'ouverture des bancs, comme le souligne Patrick Muyaya.
Elle se déroulera en trois phases. Il y a la phase justement de l'accueil du président de la République, parce que c'est une cérémonie fastueuse. Vous verrez ce que nous n'avons pas l'habitude de voir en termes de rituel qui va accompagner l'entrée du président de la République dans ces stades.
Parlant des itinéraires bloqués, l'avenue des Tuileries qui est réservée aux officiels.
L'avenue des Tuileries sera dédiée pour les chefs d'État et les chefs des délégations. Et donc, ce n'est pas conseillé de prendre Tuileries. De toute façon, la route sera fermée.
Au sujet de la manifestation pacifique prévue par l'opposition ce samedi, Peter Kazadi réagit.
Non, il n'en est pas le cas. Je pense qu'ils doivent avoir renoncé à leur projet pour laisser les Quinoises et les Quinois et surtout les Congolais en général célébrer ces bons moments d'investiture de notre chef.
Le professeur Ndaiwel Isidore a précisé que la prestation des serments se fera selon l'esprit de la Constitution.
Effectivement, en ce qui concerne les dispositifs sécuritaires à Kinshasa, tout attroupement en dehors de la cérémonie d'investiture du président de la République et toute autre manifestation ne sont pas autorisées sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa ce samedi. Cette annonce de la police ressort de la réunion des commandements tenue hier vendredi par le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa. La police dit avoir pris toutes les dispositions afin de maintenir la sécurité des personnes et de leurs biens ainsi que des invités à cet événement. Selon le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimba-Limba, les chefs des unités de la police ont reçu les directives nécessaires pour parer à toute éventualité. S'agissant justement du stade des martyrs, pourquoi avoir fait le choix d'organiser cette cérémonie d'investiture du chef de l'État dans un stade? Pour Giscard Koussema, directeur de communication adjoint à la présidence de la République, c'est pour que ça puisse permettre au peuple d'assister à l'investiture de celui-là qu'il a choisi lui-même. C'est donc tout un symbole, notamment celui de l'unité. On écoute Giscard Koussema au micro de Cynthia Bachizina Bizana.
La symbolique du stade, c'est parce que d'abord, il s'agit d'un moment de consécration. Le président de la République qui a reçu le mandat de sa population veut partager ce moment avec lui, d'autant plus que cela s'est passé dans un contexte pacifique de couronnement de notre démocratie. Donc la cérémonie d'investiture est un moment solennel de communion du président de la République qui est le symbole de l'unité de la nation avec sa population. Voilà pourquoi les portes du stade sont donc ouvertes au public et dès les premières heures, à 5 heures déjà, le stade sera ouvert et en tout cas, sauf les prestataires que sont les journalistes et les autres corps de métier. Toutes les autres personnes, les 80 000 places, sont libres, l'accès est libre. Vous entrez au stade, vous allez vous asseoir à la place de votre choix. Sauf qu'évidemment, il y a une tribune réservée aux invités, aux chefs de corps. Ceux-là, ils ont besoin d'invitation, mais pour tous les autres, l'accès est libre dès les premières heures de la journée.
Et autour du stade de Martyrs de la Pentecôte, plusieurs travaux de réaménagement des infrastructures ont été effectués, mais beaucoup restait encore à faire dans la journée d'hier vendredi. Un constat de Paul Matendo.
Sur l'avenue de Zuliri, en partant du centre-ville, Al-Barak, une entreprise privée s'active à nettoyer cette allée qui débouche jusqu'au stade des Martyrs de la Pentecôte. À l'entrée de cet édifice, des agents du ministère de l'Environnement et Développement Durable, vêtus de chasubles de couleur verte, entassent des ordures qui sont évacuées par la suite par l'Office des voiries et drainages. Certains parmi eux renouvellent les couleurs des séparateurs et des bordures. Sur avenue Assoussa, à quelques mètres du stade des Martyrs, les caniveaux sont curés. Le boulevard Triomphal, l'un des itinéraires que pourront prendre les officiels, est soigneusement balayé. Par contre, au rond-point des Huileries, des travaux de réaménagement de cet espace qui s'y déroulent sont loin de finir ce soir. D'autres voies d'accès vers le stade présentent encore des nids de poules. C'est le cas des avenues Niangwe et Kabinda. Des flaques d'eau rendent la circulation pénible. Déjà ce jeudi 18 janvier, Serge Tshibangu, superviseur de ces travaux, a affirmé que les parcours compris entre l'aéroport international de Njili et les sites qui vont accueillir les visiteurs, parmi lesquels des chefs d'État africains, est réfectionné.
Du côté des invités, notez que plusieurs délégations étrangères devront assister à cette investiture du chef de l'État congolais au stade des Martyrs de la Pentecôte. Et justement, en prévision de la venue de son président, le ministre de la Défense de la République du Malawi, à la tête d'une forte délégation, a été reçu hier vendredi par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba. C'était dans son cabinet de travail situé sur l'avenue des Libérations, ex-24 novembre, ici à Kinshasa. Au menu de cette rencontre, le renforcement de la coopération entre les deux États. Jacques-Yves Molima pour plus de détails.
La RDC est un membre de la SADC, nous devons nous soutenir mutuellement. Mon président ainsi que votre président travaillent cordialement et ils font en sorte que les relations restent les meilleures. Quand nous avons des problèmes au Malawi, la RDC nous vient en aide et nous soutient. Ainsi a déclaré Harry Mulekanjala, ministre de la Défense du Malawi, au sorti de l'audience. Parlant par ailleurs de la crise dans l'est de la RDC, le ministre Harry Mulekanjala a fait savoir que les troupes malawites combattent en RDC pour s'assurer que le rêve de la restauration de la paix puisse être une réalité dans ce beau pays. Tout en félicitant le peuple congolais pour avoir organisé et participé aux élections générales de décembre 2023, le ministre malawite de la Défense a souligné que plusieurs aspects de coopération entre les deux pays ont été évoqués par les deux personnalités. Notons que le ministre de la Défense, Harry Mulekanjala, est à la tête d'une équipe d'avance de son pays pour préparer l'arrivée à Kinshasa du président de la République du Malawi, Lazarus Chakwera, qui vient assister à la prestation de serment de Félix-Antoine Tshisekedi.
Parlons à présent de la cérémonie proprement dite qui, vous le savez, aura lieu cet avant-midi au stade des Martyrs de la Pentecôte, ici à Kinshasa. En plus de la prestation de serment constitutionnel qui engagera le chef de l'État à respecter et faire respecter la Constitution, Félix Tshisekedi va aussi prononcer un discours reprenant sa vision et son projet de société pour les 5 années à venir. Des détails avec Michel Kifindangoy.
En vertu de l'article 74 de la loi fondamentale, Félix-Antoine Tshisekedi prêtera devant la Cour constitutionnelle, en tant que président élu de la RDC, le serment d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Il s'engagera aussi à travers ce serment à maintenir l'indépendance de la RDC et l'intégrité de son territoire. Le serment du chef de l'État portera aussi sur la sauvegarde de l'unité nationale. Félix Tshisekedi s'engagera à ne privilégier que l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine dans toutes ses décisions. Dans son serment de tout à l'heure, le chef de l'État sera aussi tenu à consacrer toutes ses forces à la promotion du bien commun et de la paix. Félix-Antoine Tshisekedi jurera donc de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple congolais les hautes fonctions de la République qui lui sont confiées. Comment procédera-t-il pour matérialiser son serment ? Le président Félix-Antoine Tshisekedi nous dévoilera, à travers son discours d'investiture, sa vision et son projet de société pour la RDC durant son deuxième et dernier quinquennat.
Venons-en à présent à ce qu'attendent les Congolais du deuxième mandat du chef de l'État réélu Félix Tshisekedi. À Bukavu, au sud Kivu par exemple, les avis sont diversement partagés. Il y a d'un côté ceux qui le soutiennent et pensent qu'il ira au-delà des acquis. Et de l'autre, des Congolais, ceux qui affirment n'est pas trop espéré pour les cinq années à venir. Les propos ont été recueillis par Rachel Kiesembangu.
Par rapport à son second mandat pour les femmes, la maternité, il a promis la gratuité, surtout dans nos villages.
Par rapport au premier mandat, bon, nous n'avons rien vu. Quand bien même, il y a eu plusieurs promesses, mais nous n'avons rien vu. Cette fois-ci, on attend voir, mais on n'a pas vraiment d'espoir qu'il pourra faire quelque chose.
Je suis très très contente pour le deuxième mandat de notre président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo Fatih Béton. S'il était en face de moi, je pourrais le féliciter d'abord et puis lui dire de choisir bien son entourage pour ce deuxième mandat. S'il vous plaît, monsieur le président, choisis bien ton entourage pour ce deuxième mandat.
Pour moi, je sais que ça sera la même chose. Tout ce qui s'était dit au premier mandat, rien n'a été exécuté. Alors, le deuxième mandat, non. Je ne crois pas.
En tant qu'un Congolais qui aime son pays, nous avons toujours l'obligation que nous votions un président qui va avancer le pays. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous souhaiterions que lui, comme notre président, qui fait quelque chose pour que le pays avance.
Autre volet de l'actualité, la CENI invite les évêques, membres de la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, à se concentrer sur le devoir primordial de moraliser la population en général et les acteurs politiques en particulier, et ce, conformément à leur mission de formation des consciences par l'évangélisation et l'éducation. La CENI l'a fait savoir hier vendredi à Kinshasa dans un communiqué de presse en réaction au message des évêques qualifiant les scrutins du 20 décembre dernier d'une catastrophe électorale au regard de l'ampleur et de l'étendue des irrégularités et des incidents. D'autres détails avec vous grâce à Mzati Masanzi.
D'après la CENI, le message des évêques catholiques est l'épitome d'un adage qui suggère que la critique est aisée alors que l'art est difficile. La conséquence étant qu'au lieu de se livrer à une analyse approfondie et systématique de la situation générale et du contexte dans lequel les 10 scrutins se sont déroulés, la CENCO a appliqué la politique de l'Autriche qui consiste à ne pas aborder les vrais problèmes et leurs causes, déplore la centrale électorale. Selon elle, avant d'être des faits matériels, la fraude et la corruption, deux concepts qui transparaissent en filigrane dans le message de la CENCO, sont des actes délibérés qui relèvent fondamentalement de l'éthique et de la morale. Ainsi, il est injuste que la CENCO puisse allégrément les imputer exclusivement au pouvoir organisateur des élections en RDC dans une situation où il est clairement établi qu'au lieu d'être organisatrice de ces actes, la CENI a été victime des comportements et agissements de certains acteurs bien identifiés dans notre société, ajoute le communiqué. Et pour preuve, précise le document, je cite, « Pour la toute première fois, la CENI n'a pas hésité à diligenter des enquêtes et à prendre des sanctions exemplaires contre les délinquants électoraux, notamment les candidats, les autorités politico-administratives ainsi que son personnel. » Fin de citation. Au-delà de toutes les considérations, la CENI actuelle affirme avoir réussi à organiser le processus électoral le plus inclusif, le plus transparent et le plus apaisé de l'histoire contemporaine de notre pays.
Et puis la coalition des femmes leaders du Maniema, avec l'accompagnement du conseil régional des organisations non gouvernementales de développement de cette province, demande le respect de la parité au sein du nouveau gouvernement provincial du Maniema. Ces organisations ont fait savoir ses vœux hier vendredi à Kindu au cours des points de presse. Selon cette coalition, depuis 1962, aucun gouvernement sous les 19 qui sont succédés à l'exécutif provincial du Maniema n'a atteint un seuil de 30% des femmes. On écoute à ce sujet Maître Keren Lainitenda, membre de cette coalition, au micro de Florence Kizalunga.
Notre démarche consiste à ce qu'on puisse obtenir la réalité même de la parité dans nos institutions gouvernementales au sein de la province du Maniema. Nous avons eu déjà 19 gouvernements qui se sont succédés et au cours de ces gouvernements, aucun d'eux n'a eu à respecter la parité. Étant donné qu'il y a un gouvernement qui est en vie, nous aurons pour bientôt les résultats des députés provinciaux et on aura aussi à voter les gouverneurs. Alors, lorsqu'on va constituer les gouvernement. Notre souci est qu'à l'issue de la constitution du prochain gouvernement, qu'on puisse avoir la parité cette fois-ci. C'est-à-dire que les femmes soient représentées, que les hommes au sein du gouvernement. Et c'est là notre cheval de bataille dont nous menons plusieurs activités pour que nous puissions gagner gain de cause, bien que l'histoire peut être décourageante de notre côté, mais nous militons à ce que cette fois-ci la donne change.
Actualité internationale.
En Afrique du Sud, 10 ans après la mort de Nelson Mandela, une vente de ses biens provoque une nouvelle fois la polémique. La maison Guernsey, basée à New York, prévoit de mettre aux enchères le 22 février prochain une série d'objets sur décision de Makaziwe Mandela, l'aîné des filles de l'ancien chef de l'État. Mais le gouvernement sud-africain ne l'attend pas de cette oreille, puisqu'il considère que ses biens appartiennent à la nation arc-en-ciel. Au Sénégal, alors que la publication de la liste définitive des candidats autorisés à participer à la présidentielle est attendue ce samedi, la plateforme de la société civile F24 appelle le Conseil constitutionnel, qui doit arbitrer une quarantaine de réclamations des candidats, à veiller à ce que cette étape du processus électoral soit crédible et transparente. Et face à ces nombreuses réclamations des candidats, la plateforme F24 s'est dit inquiète.
L'invité.
L'invité de ce journal est le porte-parole militaire de la MONUSCO basée à Goma. Le lieutenant-colonel Kedani Mensa fait le point sur les interventions de la MONUSCO dans le cadre de son mandat de protection des civils dans les provinces de l'Ituri et du Sud Kivu. Le lieutenant-colonel Kedani Mensa s'entretient avec Bernard Nyangi.
Lieutenant-colonel Kedani Mensa, bonjour.
Bonjour.
Nous allons commencer d'abord dans la province de l'Ituri où on a noté quelques soupçons d'un mouvement de la milice Codeco dans la région, notamment de Drodro et aussi de Largou. Alors, quelle a été la réaction de la MONUSCO par rapport à ça?
Le 10 janvier 2024, il a été reporté par un agent de liaison et d'assistance communautaire de la MONUSCO un mouvement probable de la milice de la Codeco autour de l'église de Drodro et de Largou. À l'été, le bataillon bengladais déployé dans la zone a envoyé automatiquement une patrouille le long de l'axe église Drodro vers l'hôpital Drodro et de Largou pour le contrôle de la zone et être en mesure de réagir à toute agression d'un groupe armé. Dans le but d'assurer la protection des civils, le contrôle de la zone, y compris l'axe église Drodro vers l'hôpital Drodro et Largou, a été poursuivi dans la nuit par plusieurs patrouilles pour déjouer toute action de groupes armés. Il est à noter que les FADC de Massoubungou ont été aussi informés de l'alerte.
Et ça, c'est un incident du 10 janvier, mais qu'en est-il ce qui s'est passé toujours à Drodro le 11 janvier 2024.
Le 11 janvier 2024, les unités militaires de la MONUSCO déployées dans la région de Drodro ont entendu des coups de feu venant de la région de Panza. Ces coups de feu ont semé la panique au sein des villageois qui se sont précipités vers la base de la MONUSCO pour se mettre à l'abri. Immédiatement, une patrouille robuste du bataillon bengladais, montée sur un engin blindé de combat, a été envoyée en direction de Mazé. Arrivé sur les lieux, il a été constaté que ce sont les tensions qui prévalaient entre la Codeco et le Zaïre qui sont à l'origine de ces coups de feu. Une zone de sûreté pouvant contenir jusqu'à 300 personnes a été créée par les unités déployées dans la zone pour protéger d'éventuels déplacements de la population civile vers la base de la MONUSCO. Face à cette posture des forces de la MONUSCO déployées dans la région, la situation est devenue calme et les populations ont repris leurs activités.
Et pendant ce temps, lieutenant-colonel, le même jour, le 11 janvier, on a reporté d'autres incidents à Kagando. Qu'en est-il?
Oui, effectivement, le 11 janvier 2024, un homme a été tué par des hommes armés non identifiés à Kagando, dans le quartier de Kilimba, Kabungé. Une patrouille forte de longue portée de bataillons pakistanais a été immédiatement dépêchée sur le lieu de l'incident. Le chef de patrouille a pris contact avec le commandant des FADC de la zone et la famille de la victime pour avoir plus d'informations sur le crime. Il a été suggéré à l'issue aux unités locales des FADC de renforcer leurs mécanismes de sécurité, en particulier la nuit, afin de dissuader les activités criminelles et d'assurer la protection des civils.
Et toujours dans la province de l'Ituri, à Tcha, il s'est aussi déroulé quelques incidents le 12 janvier 2024.
Effectivement, le 12 janvier 2024, les forces de la MONUSCO ont entendu des coups de feu en provenant de la direction du village de Tcha. La MONUSCO, en coordination avec les FADC, ont déploché une force d'intervention rapide sur les lieux. Après investigation, il a été révélé que c'est la Codeco qui avait attaqué le poste de contrôle des FADC près du village de Tcha. On déplore malheureusement le décès d'un soldat des FADC et une arme emportée. La patrouille de la MONUSCO a renforcé la position des phares d'ici jusqu'à l'arrivée des renforts des phares d'ici. Les unités de la MONUSCO ont poursuivi la patrouille jusqu'à ce que la situation redevienne calme.
Alors nous allons peut-être aller vers le sud Kivu, juste pour savoir un peu quelles sont les informations que nous pouvons retenir sur les actions que mène la MONUSCO dans le cadre du processus de désarmement.
Effectivement, le 12 janvier 2024, deux garçons mineurs du groupe armé Tuangeneuro se sont rendus à l'état-major de la 12e brigade des phares d'essai à Mandegou. Les combattants ont remis deux armes AK-47 aux phares d'essai. En étroite collaboration avec les phares d'essai, la MONUSCO a facilité cette opération et continue de suivre l'évolution du dossier conjointement avec les autorités compétentes. Il est à rappeler qu'à la suite de la récente recrudescence des activités des groupes armés, en particulier les Tuangeneuro, dans la région de Minembwe et de Mikenge, les bataillons pakistanais déployés dans la région depuis octobre 2023, avec ses 553 patrouilles de longue portée, 13 opérations de coup de poing et 4 opérations de déploiement temporaire, contribuent énormément à la sécurisation de la région, sans nul doute en étroite collaboration avec les FADC, comme un processus de renforcement des capacités des unités FADC déployées dans la région, en vue de leur permettre d'agir plus efficacement. Cette présence permanente des forces de la MONUSCO ont permis non seulement de réduire les violations des droits de l'homme, mais surtout de faire comprendre à la population les risques liés à leur participation aux côtés des groupes armés au lieu de soutenir les forces de défense et sécurité de la RDC. Les forces de la MONUSCO déployées au sud Kivu continuent leurs opérations de sensibilisation de la population locale, dont plus de 292 activités d'engagement communautaire ont été menées depuis octobre 2023 pour dissuader la population à rejoindre les groupes armés.
Lieutenant-colonel Kedanyi Mensa, merci.
Je vous remercie.
Notre invité, le porte-parole militaire de la MONUSCO basée à Goma, au nord Kivu, le lieutenant-colonel Kedanyi Mensa, s'entretenait avec Bernard Nyangui. Ce journal est à présent terminé. Il a été supervisé par Noëlla Luzitu Kabambi et mis en onde par Mimi Kindou. Merci à vous de l'avoir écouté.